Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 8, chapitre 8. Histoire de Don Roger de Rada. Don Anastasio de Rada, gentilhomme grenadin, vivait heureux dans la ville d'Antequera, avec Doña Estefania, son épouse, qui joignait à une vertu solide un esprit doux et une extrême beauté. Si elle aimait tendrement son mari, elle en était aimée éperdument. Il était de son naturel fort porté à la jalousie, et quoiqu'il n'eût aucun sujet de douter de la fidélité de sa femme, il ne laissait pas d'avoir de l'inquiétude. Et il appréhendait que quelque secret ennemi de son repos n'attentât à son honneur. Il se défiait de tous ses amis, excepté de Don Huberto de Ordales, qui venait librement dans sa maison en qualité de cousin d'Estéphanie, et qui était le seul homme dont il dut se défier. Effectivement, Don Huberto devint amoureux de sa cousine et osa lui déclarer son amour, sans avoir égard au sang qui les unissait, ni à l'amitié particulière que Don Anastasio avait pour lui. La dame, qui était prudente, au lieu de faire un éclat qui aurait eu de fâcheuses suites, reprit son parent avec douceur, lui représenta jusqu'à quel point il était coupable de vouloir la séduire et déshonorer son mari, et lui dit fort sérieusement qu'il ne devait point se flatter de l'espérance d'y réussir. Cette modération ne servit qu'à enflammer davantage le cavalier, qui, s'imaginant qu'il fallait pousser à bout une femme de ce caractère-là, commença d'avoir avec elle des manières peu respectueuses et eut l'audace, un jour, de la presser de satisfaire ses désirs. Elle le repoussa d'un air sévère et le menaça de faire punir sa témérité par Don Anastasio. Le galant, effrayé de la menace, promit de ne plus parler d'amour. Et, sur la foi de cette promesse, Estéphanie lui pardonna le passé. Don Huberto, qui naturellement était un très méchant homme, ne put voir sa passion si mal payée, sans concevoir une lâche envie de s'en venger. Il connaissait Don Anastasio pour un jaloux susceptible de toutes les impressions qu'il voudrait lui donner. Il n'eut besoin que de cette connaissance pour former le dessein le plus noir dont un scélérat puisse être capable. Un soir, qu'il se promenait seul avec ce faible époux, il lui dit, de l'air du monde le plus triste, « Mon cher ami, je ne puis vivre plus longtemps sans vous révéler un secret que je n'aurais garde de vous découvrir, si votre honneur ne vous était pas plus cher que votre repos. Votre délicatesse et la mienne en matière d'offense ne me permettent pas de vous cacher ce qui se passe chez vous. Préparez-vous à entendre une nouvelle qui vous causera autant de douleur que de surprise. Je vais vous frapper par l'endroit le plus sensible. » « Je vous entends, » interrompit Don Anastasio déjà tout troublé. « Votre cousine m'est infidèle. » « Je ne la reconnais plus pour ma cousine, » reprit Ordales d'un air emporté. « Je la désavoue, elle est indigne de vous avoir pour mari. »
« C'est trop me faire languir, » s'écria Don Anastasio.
« Parlez, qu'a fait Estéphanie ?»«
Elle vous a trahi, » repartit Don Huberto. « Vous avez un rival qu'elle écoute en secret, mais que je ne puis vous nommer, car l'adultère, à la faveur d'une épaisse nuit, s'est dérobé aux yeux qui l'observaient. Tout ce que je sais, c'est qu'on vous trompe, c'est un fait dont je suis certain. » L'intérêt que je dois prendre à cette affaire ne vous répond que trop de la vérité de mon rapport. Puisque je me déclare contre Estéphanie, il faut que je sois bien convaincu de son infidélité.
Il est inutile, continua-t-il en remarquant que ses discours faisaient l'effet qu'il en attendait. Il est inutile de vous en dire davantage. Je m'aperçois que vous êtes indigné de l'ingratitude dont on ose payer votre amour et que vous méditez une juste vengeance. Je ne m'y opposerai point. N'examinez pas quelle est la victime que vous allez frapper. Montrez à toute la ville qu'il n'est rien que vous ne puissiez immoler à votre honneur. » Le traître animait ainsi un époux trop crédule contre une femme innocente, et il lui peignit avec de si vives couleurs l'infamie dont il demeurerait couvert s'il laissait l'affront impuni, qu'il le mit enfin en fureur. Voilà Don Anastasio qui perd le jugement.
Il semble que les furies l'agitent. Il retourne chez lui dans la résolution de poignarder sa malheureuse épouse. Elle était prête à se mettre au lit quand il arriva. Il se contraignit d'abord et attendit que les domestiques fussent retirés. Alors, sans être retenu par la crainte de la colère céleste, ni par le déshonneur qui allait rejaillir sur une honnête famille, ni même par la pitié naturelle qu'il devait avoir d'un enfant de 6 mois que sa femme portait dans ses flancs, il s'approcha de sa victime et lui dit d'un ton furieux « Il faut périr, misérable, et tu n'as plus qu'un moment à vivre, que ma bonté te laisse pour prier le ciel de te pardonner l'outrage que tu m'as fait. Je ne veux pas que tu perdes ton âme comme tu as perdu ton honneur. » En disant cela, il tira son poignard. Son action et ses discours épouvantèrent Estéphanie, qui, se jetant à ses genoux, lui dit les mains jointes et tout éperdu « Qu'avez-vous, Seigneur? Quel sujet de mécontentement ai-je eu le malheur de vous donner pour vous porter à cette extrémité? Pourquoi voulez-vous arracher la vie à votre épouse? Si vous la soupçonnez de ne vous être pas fidèle, vous êtes dans l'erreur. » « Non, non, » reprit brusquement le jaloux, « je ne suis que trop assuré de votre trahison. Les personnes qui m'en ont averti sont dignes de foi. Don Huberto. » « Ah, Seigneur !» interrompit-elle avec précaution. « Vous devez vous défier de Don Huberto. Il est moins votre ami que vous ne pensez. S'il vous a dit quelque chose au désavantage de ma vertu, ne le croyez pas. Taisez-vous, infâme que vous êtes !» répliqua Don Anastasio. En voulant me prévenir contre Ordalès, vous justifiez mes soupçons au lieu de les dissiper. Vous tâchez de me rendre ce parent suspect parce qu'il est instruit de votre mauvaise conduite. Vous voudriez bien affaiblir son témoignage, mais cet artifice est inutile et redouble l'envie que j'ai de vous punir. Mon cher époux, reprit l'innocente Estéphanie en pleurant amèrement, craignez votre aveugle colère. Si vous en suivez les mouvements, vous commettrez une action dont vous ne pourrez vous consoler, tant vous en aurez reconnu l'injustice. Au nom de Dieu, calmez vos transports. Donnez-vous du moins le temps d'éclaircir vos soupçons. Vous rendrez plus de justice à une femme qui n'a rien à se reprocher. » Tout autre que Don Anastasio aurait été touché de ces paroles, et encore plus de l'affliction de la personne qui venait de les prononcer. Mais le cruel, loin d'en paraître attendri, dit à la dame, une seconde fois, de se recommander promptement à Dieu, et leva même le bras pour la frapper. « Arrête, barbare !» lui cria-t-elle. « Si l'amour que tu as eu pour moi est entièrement éteint, si les marques de tendresse que je t'ai prodiguées sont effacées de ton souvenir, si mes larmes ne sauraient te détourner de ton exécrable dessein, respecte ton propre sang !» N'arme pas ta main furieuse contre un innocent qui n'a point vu encore la lumière. Tu ne peux devenir son bourreau sans offenser le ciel et la terre. Pour moi, je te pardonne ma mort. Mais n'en doute pas, la sienne demandera justice d'un si horrible forfait. » Quelque déterminé que fût Don Anastasio à ne faire aucune attention à ce que pourrait lui dire Estéphanie, il ne laissa pas d'être ému des images affreuses que ces derniers mots présentèrent à son esprit. Aussi, comme s'il eût craint que son émotion ne trahît son ressentiment, il se hâta de profiter de la fureur qui lui restait et plongea son poignard dans le côté droit de sa femme. Elle tomba dans le moment. Il la crut morte, il sortit aussitôt de sa maison et disparut d'Antequer. Cependant, cette épouse infortunée fut si étourdie du coup qu'elle avait reçu qu'elle demeura quelques instants à terre comme une personne sans vie. Ensuite, reprenant ses esprits, elle fit des plaintes et des lamentations qui attirèrent auprès d'elle une vieille femme qui la servait. Dès que cette bonne vieille vit sa maîtresse dans un si pitoyable état, elle poussa des cris qui dissipèrent le sommeil des autres domestiques et même des plus proches voisins. La chambre fut bientôt remplie de monde. On appela des chirurgiens, ils visitèrent la plaie et n'en eurent pas mauvaise opinion. Ils ne se trompèrent point dans leurs conjectures. Ils guérirent même en assez peu de temps Estéphanie, qui accoucha fort heureusement d'un fils 3 mois après cette cruelle aventure. Et c'est ce fils, Seigneur Gil Blas, que vous voyez en moi. Je suis le fruit de ce triste enfantement. Quoique la médisance n'épargne guère la vertu des femmes, elle respecta pourtant celle de ma mère, et cette scène sanglante ne passa dans la ville que pour le transport d'un mari jaloux. Il est vrai que mon père y était connu pour un homme violent, et fort sujet à prendre trop facilement ombrage. Ordalès jugea bien que sa parente le soupçonnait d'avoir troublé par des fables l'esprit de Don Anastasio, et satisfait de s'être du moins à demi vengé d'elle, il cessa de la voir. De peur d'ennuyer votre seigneurie, je ne m'étendrai point sur l'éducation qu'on m'a donnée. Je dirai seulement que ma mère s'est principalement attachée à me faire apprendre l'escrime, et que j'ai longtemps fait des armes dans les plus célèbres salles de Grenade et de Séville. Elle attendait avec impatience que je fusse en âge de mesurer mon épée à celle de Don Huberto, pour m'instruire du sujet qu'elle avait de se plaindre de lui. Et, me voyant enfin dans ma 18e année, elle m'en fit confidence, non sans répandre des pleurs abondamment, ni paraître saisie d'une vive douleur. Quelle impression ne fait pas une mère en cet état sur un fils qui a du courage et du sentiment? J'allai sur-le-champ trouver Ordalès. Je l'attirai dans un endroit écarté, où, après un assez long combat, je le perçai de 3 coups d'épée et le jetai sur le carreau. Don Huberto, se sentant mortellement blessé, attacha sur moi ses derniers regards et me dit qu'il recevait la mort que je lui donnais comme une juste punition du crime qu'il avait commis contre l'honneur de ma mère. Il confessa que c'était pour se venger de ses rigueurs qu'il s'était résolu de la perdre. Puis il expira en demandant pardon de sa faute au ciel, à Don Anastasio, à Estefanie et à moi. Je ne jugeais point à propos de retourner au logis pour informer ma mère de cet événement. J'en laissai le soin à la renommée. Je passai les montagnes et me rendis à la ville de Malaga, où je m'embarquai avec un armateur qui sortait du port pour aller en course. Je lui parus ne pas manquer de cœur. Il consentit volontiers que je me joignisse aux enfants de bonne volonté qu'il avait sur son bord. Nous ne tardâmes guère à trouver une occasion de nous signaler. Nous rencontrâmes, aux environs de l'île d'Abouran, un corsaire de Melilla qui retournait vers les côtes d'Afrique avec un bâtiment espagnol qu'il avait pris à la hauteur de Carthagène et qui était richement chargé. Nous attaquâmes vivement l'Africain et nous nous rendîmes maîtres de ces 2 vaisseaux, où il y avait 80 chrétiens qui l'emmenaient esclaves en Barbarie. Alors, profitant d'un vent qui s'éleva et qui nous était favorable pour gagner la côte de Grenade, nous arrivâmes en peu de temps à Punta de Elena. Comme nous demandions aux esclaves que nous avions délivrés de quel endroit ils étaient, je fis cette question à un homme de très bonne mine et qui pouvait bien avoir 50 ans. Il me répondit en soupirant qu'il était d'Antequera. Je me sentis ému de sa réponse sans savoir pourquoi, et mon émotion, dont il s'aperçut, excita en lui un trouble que je remarquai. « Je suis, lui dis-je, votre concitoyen. Peut-on vous demander le nom de votre famille ?»« Hélas, me répondit-il, vous renouvelez ma douleur en exigeant de moi que je satisfasse votre curiosité. Il y a 18 années que j'ai quitté le séjour d'Antequera, où l'on ne doit se souvenir de moi qu'avec horreur. Vous n'avez peut-être vous-même que trop entendu parler de moi. Je me nomme Don Anastasio de Rada. »
Juste ciel ! M'écriai-je. Dois-je croire ce que j'entends ? Quoi ? Vous seriez Don Anastasio ? Serait-ce mon père que je verrais ? Que dites-vous, jeune homme ? S'écria-t-il à son tour en me considérant avec surprise. Serait-il bien possible que vous fussiez cet enfant malheureux qui était encore dans les flancs de sa mère quand je la sacrifiais à ma fureur ?
Oui, mon père, lui dis-je, c'est moi que la vertueuse Estefanie a mis au monde 3 mois après la nuit funeste où vous la laissâtes noyer dans son sang. Don Anastasio n'attendit pas que j'eusse achevé ces paroles pour se jeter à mon cou. Il me serra entre ses bras, et nous ne fîmes pendant un quart d'heure que confondre nos soupirs et nos larmes. Après nous être abandonnés au tendre mouvement qu'une pareille reconnaissance ne pouvait manquer d'exciter en nous, mon père leva les yeux au ciel pour le remercier d'avoir sauvé la vie à Estefanie. Mais un moment après, comme s'il eût craint de lui rendre grâce mal à propos, Il m'adressa la parole et me demanda de quelle manière on avait reconnu l'innocence de sa femme.
« Seigneur, lui répondis-je, personne que vous n'en a jamais douté. La conduite de votre épouse a toujours été sans reproche. Il faut que je vous désabuse. Sachez que c'est Don Huberto qui vous a trompé. »
En même temps, je lui contai toute la perfidie de ce parent, quelle vengeance j'en avais tirée et ce qu'il m'avait avoué en mourant. Mon père fut moins sensible au plaisir d'avoir recouvré la liberté qu'à celui d'entendre les nouvelles que je lui annonçais. Il recommença, dans l'excès de la joie qui le transportait, à m'embrasser tendrement. Il ne pouvait se lasser de me témoigner combien il était content de moi.
« Allons, mon fils, me dit-il, prenons vite le chemin d'Antequera. Je brûle d'impatience de me jeter aux pieds d'une épouse que j'ai si indignement traitée. Depuis que vous m'avez fait connaître mon injustice, j'ai des remords qui me déchirent le cœur. »
J'avais trop d'envie de rassembler ces deux personnes qui m'étaient si chères pour en retarder le doux moment. Je quittai l'armateur, et de l'argent que je reçus pour ma part de la prise que nous avions faite, j'achetai à Adra 2 mules, mon père ne voulant plus s'exposer au péril de la mer. Il eut tout le loisir sur la route de me raconter ses aventures, que j'écoutais avec cette avide attention que prêta le prince d'Ithaque au récit de celle du roi son père. Enfin, après plusieurs journées, nous nous rendîmes au bas de la montagne la plus voisine d'Antequera et nous fîmes halte en cet endroit. Comme nous voulions arriver secrètement au logis, nous n'entrâmes dans la ville qu'au milieu de la nuit. Je vous laisse à imaginer la surprise où fut ma mère de revoir son mari qu'elle croyait avoir perdu pour jamais, et la manière, pour ainsi dire, miraculeuse dont il lui était rendu devenait encore pour elle un autre sujet d'étonnement. Il lui demanda pardon de sa barbarie avec des marques si vives de repentir qu'elle ne put se défendre d'en être touchée. Au lieu de le regarder comme un assassin, elle ne vit plus en lui qu'un homme à qui le ciel l'avait soumise, tant le nom d'époux est sacré pour une femme qui a de la vertu. Estéphanie avait été si en peine de moi qu'elle fut charmée de mon retour. Elle n'en ressentit pas toutefois une joie pure. Une sœur de Ordalès procédait criminellement contre le meurtrier de son frère. Elle me faisait chercher partout. De sorte que ma mère, ne me voyant pas en sûreté dans notre maison, n'était pas sans inquiétude. Cela m'obligea dès cette nuit même de partir pour la cour, où je viens, Seigneur, solliciter ma grâce, que j'espère obtenir, puisque vous voulez bien parler en ma faveur au premier ministre et m'appuyer de tout votre récit. » Le vaillant fils de Don Anastasio finit là son récit. Après quoi je lui dis d'un air important: « C'est assez, Seigneur Don Roger, le cas me paraît graciable. Je me charge de détailler votre affaire à son excellence, dont j'ose vous promettre la protection. » Le grenadin sur cela se répandit en remerciements qui ne m'aurait fait qu'entrer par une oreille et sortir par l'autre s'il ne m'eût assuré que sa reconnaissance suivrait d'après le service que je lui rendrais. Mais d'abord qu'il eût touché cette corde-là, je me mis en mouvement. Dès le jour même, je contai cette histoire au duc, qui, m'ayant permis de lui présenter le cavalier, lui dit « Don Roger, je suis instruit de l'affaire d'honneur qui vous a fait venir à la cour. Santillane m'en a dit toutes les circonstances. Ayez l'esprit tranquille, vous n'avez rien fait qui ne soit excusable, et c'est particulièrement aux gentilshommes qui vengent leur honneur offensé que Sa Majesté aime à faire grâce. » Il faut pour la forme vous mettre en prison, mais soyez assuré que vous n'y demeurerez pas longtemps. Vous avez dans Santillane un bon ami qui se chargera du reste. Il hâtera votre élargissement. » Don Roger fit une profonde révérence au ministre sur la parole duquel il alla se constituer prisonnier. Ses lettres de grâce furent bientôt expédiées par mes soins. En moins de 10 jours, j'envoyai ce nouveau Télémaque rejoindre son Ulysse et sa Pénélope. Au lieu que, s'il n'eût pas eu de protecteur et d'argent, il n'en aurait peut-être pas été quitte pour une année de prison. Je ne tirai pourtant de ce service rendu que 100 pistoles. Ce n'était point là un grand coup de filet. mais je n'étais pas encore un Calderon pour mépriser les petits.
Chapitre 9. Par quels moyens Gil Blas fit en peu de temps une fortune considérable et des grands airs qu'il se donna. Cette affaire me mit en goût, et 10 pistoles que je donnais à Scipion pour son droit de courtage l'encouragèrent à faire de nouvelles recherches. J'ai déjà vanté ses talents là-dessus. On aurait pu l'appeler à juste titre le grand Scipion. Il m'amena pour second chaland un imprimeur de livres de chevalerie qui s'était enrichi en dépit du bon sens. Cet imprimeur avait contrefait un ouvrage d'un de ses confrères et son édition avait été saisie. Pour 300 ducats, je lui fis avoir main levée de ses exemplaires et lui sauvai une grosse amende. Quoique cela ne regardât point le premier ministre, son excellence voulut bien, à ma prière, interposer son autorité. Après l'imprimeur, il me passa par les mains un négociant. Et voici de quoi il s'agissait. Un vaisseau portugais avait été pris par un corsaire de Barbarie et repris ensuite par un armateur de Cadix. Les 2/3 des marchandises dont il était chargé appartenaient à un marchand de Lisbonne qui, les ayant inutilement revendiquées, venait à la cour d'Espagne chercher un protecteur qui eut assez de crédit pour les lui faire rendre. Il eut le bonheur de le trouver en moi. Je m'intéressai pour lui et il rattrapa ses effets, moyennant la somme de 400 pistoles dont il fit présent à la protection. Et il me semble que j'entends un lecteur qui me crie en cet endroit « Courage, monsieur Santillane, mettez du foin dans vos bottes, vous êtes en beau chemin, poussez votre fortune !» Oh, que je n'y manquerai pas. Je vois, si je ne me trompe, arriver mon valet avec un nouveau quidam qu'il vient d'accrocher. Justement, c'est Scipion. « Écoutons-le, seigneur, me dit-il, souffrez que je vous présente ce fameux opérateur. » Il demande un privilège pour débiter ses drogues pendant 10 années dans toutes les villes de la monarchie d'Espagne, à l'exclusion de tous autres, c'est-à-dire qu'il soit défendu aux personnes de sa profession de s'établir dans les lieux où il sera. Par reconnaissance, il comptera 200 pistoles à celui qui lui en remettra le privilège expédié. Je dis au saltimbanque, en tranchant du protecteur, « Allez, mon ami, je ferai votre affaire. » Et véritablement, peu de jours après, je le renvoyais avec des patentes qui lui permettaient de tromper le peuple exclusivement dans tous les royaumes d'Espagne. J'éprouvais la vérité du proverbe que l'appétit vient en mangeant. Mais, outre que je me sentais plus avide à mesure que je devenais plus riche, j'avais obtenu de son excellence si facilement les 4 grâces dont je viens de parler, que je ne balançais point à lui en demander une 5e. C'était le gouvernement de la ville de Vera, sur la côte de Grenade, pour un chevalier de Calatrava qui m'en offrait 1000 pistoles. Le ministre se prit à rire en me voyant si âpre à la curée. « Vive Dieu, ami Gil Blas, me dit-il, comme vous y allez, vous aimez furieusement à obliger votre prochain. Écoutez, lorsqu'il ne sera question que de bagatelles, je n'y regarderai pas de si près. Mais quand vous voudrez des gouvernements ou d'autres choses considérables, vous vous contenterez, s'il vous plaît, de la moitié du profit. Vous me tiendrez compte de l'autre. Vous ne sauriez vous imaginer, continua-t-il, la dépense que je suis obligé de faire, ni combien de ressources il me faut pour soutenir la dignité de mon poste. Car malgré le désintéressement dont je me pars aux yeux du monde, je vous avoue que je ne suis point assez imprudent pour vouloir déranger mes affaires domestiques. Réglez-vous sur cela. » Mon maître, par ce discours m'ôtant la crainte de l'importuner, ou plutôt m'excitant à retourner souvent à la charge, me rendit encore plus affamé de richesses que je ne l'étais auparavant. J'aurais alors volontiers fait afficher que tous ceux qui souhaitaient obtenir des grâces de la cour n'avaient qu'à s'adresser à moi. J'allais d'un côté, Scipion de l'autre. Je ne cherchais qu'à faire plaisir pour de l'argent. Mon chevalier de Calatrava eut le gouvernement de Vera pour 1000 pistoles, et j'en fis bientôt accorder un autre pour le même prix à un chevalier de Saint-Jacques. Je ne me contentais pas de faire des gouverneurs, je donnais des ordres de chevalerie.
Je convertis quelques bons roturiers en mauvais gentilshommes par d'excellentes lettres de noblesse. Je voulus aussi que le clergé se ressentît de mes bienfaits. Je conférai de petits bénéfices, des canonicats et quelques dignités ecclésiastiques. À l'égard des évêchés et des archevêchés, c'était Don Rodrigue de Calderon qui en était le collateur. Il nommait encore aux magistratures, aux commanderies et aux vice-royautés, ce qui suppose que les grandes places n'étaient pas mieux remplies que les petites. Car les sujets que nous choisissions pour occuper les postes dont nous faisions un si honnête trafic n'étaient pas toujours les plus habiles gens du monde, ni les plus réglés. Nous savions bien que dans Madrid, les railleurs s'égayaient là-dessus à nos dépens. Mais nous ressemblions aux avares qui se consolent des huées du peuple en revoyant leur or. Isocrate a raison d'appeler l'intempérance et la folie les compagnes inséparables des riches. Quand je me vis maître de 30 000 ducats et en état d'en gagner peut-être 10 fois autant, je crus devoir faire une figure digne d'un confident de premier ministre. Je louai un hôtel entier que je fis meubler proprement. J'achetai le carrosse d'un escrivano qui se l'était donné par ostentation et qui cherchait à s'en défaire par le conseil de son boulanger. Je pris un cocher, 3 laquais, et comme il est juste d'avancer ses anciens domestiques, j'élevai Scipion au triple honneur d'être mon valet de chambre, mon secrétaire et mon intendant. Mais ce qui mit le comble à mon orgueil, c'est que le ministre trouva bon que mes gens portassent sa livrée. J'en perdis ce qui me restait de jugement. Je n'étais guère moins fou que les disciples de Porcius Latro, qui, lorsqu'à force d'avoir bu du cumin, ils s'étaient rendus aussi pâles que leur maître, s'imaginaient être aussi savants que lui. Peu s'en fallait que je ne me crusse parent du duc de Lerme. Je me mis dans la tête que je passerais pour tel, ou peut-être pour un de ces bâtards, ce qui me flattait infiniment. Ajoutez à cela qu'à l'exemple de son excellence qui tenait table ouverte, je résolus de donner aussi à manger. Pour cet effet, je chargeai Scipion de me déterrer un habile cuisinier, et il m'en trouva un, qui était comparable peut-être à celui du Romain Nomentanus, de friande mémoire. Je remplis ma cave de vin délicieux, et après avoir fait mes autres provisions, je commençai à recevoir compagnie. Ils venaient souper chez moi tous les jours quelques-uns des principaux commis du bureau du ministre, qui prenaient fièrement la qualité de secrétaire d'État. Je leur faisais très bonne chère et les renvoyais toujours bien abreuvés. De son côté, Scipion, car tel maître, tel valet, avait aussi sa table dans l'office, où il régalait à mes dépens les personnes de sa connaissance. Mais, outre que j'aimais ce garçon-là, comme il contribuait à me faire gagner du bien, il me paraissait en droit de m'aider à le dépenser. D'ailleurs, je regardais ses dissipations en jeune homme. Je ne voyais pas le tort qu'elle me faisait. Je ne considérais que l'honneur qui m'en revenait. Une autre raison encore m'empêchait d'y prendre garde. Les bénéfices et les emplois ne cessaient pas de faire venir l'eau au moulin. Je voyais mes finances augmenter de jour en jour. Je m'imaginais, pour le coup, avoir attaché un clou à la roue de la fortune. Il ne me manquait plus à ma vanité que de rendre Fabrice témoin de ma vie fastueuse. Je ne doutais pas qu'il ne fût de retour d'Andalousie, et pour me donner le plaisir de le surprendre, je lui fis tenir un billet anonyme, par lequel je lui mandai qu'un seigneur sicilien de ses amis l'attendait à souper. Je lui marquai le jour, l'heure et le lieu où il fallait qu'il se trouvât. Le rendez-vous était chez moi. Nunez y vint, et fut extraordinairement étonné d'apprendre que j'étais le seigneur étranger qu'il avait invité à souper. « Oui, lui dis-je, mon ami, je suis le maître de cet hôtel. J'ai un équipage, une bonne table et de plus un coffre-fort. »« Est-il possible, s'écria-t-il avec vivacité, que je te retrouve dans l'opulence, que je me sais bon gré de t'avoir placé auprès du comte Galliano ? « Je te disais bien que c'était un seigneur généreux et qu'il ne tarderait guère à te mettre à ton aise. Tu auras sans doute, ajouta-t-il, suivis le sage conseil que je t'avais donné de lâcher un peu la bride au maître d'hôtel. Je t'en félicite. Ce n'est qu'en tenant cette prudente conduite que les intendants deviennent si gras dans les grandes maisons. » Je laissai Fabrice s'applaudir tant qu'il lui plut de m'avoir mis chez le comte Galliano. Après quoi, pour modérer la joie qu'il sentait de m'avoir procuré un si bon poste, je lui détaillai les marques de reconnaissance dont ce seigneur avait payé mes services. Mais, m'apercevant que mon poète, pendant que je lui faisais ce détail, chantait en lui-même la palinodie, je lui dis « Je pardonne au Sicilien son ingratitude. Entre nous, j'ai plutôt sujet de m'en louer que de m'en plaindre. Si le comte n'en eût pas mal usé avec moi, je l'aurais suivi en Sicile, où je le servirais encore dans l'attente d'un établissement incertain. En un mot, je ne serais pas confident du duc de Lerme. » Nunez fut si vivement frappé de ces derniers mots qu'il demeura quelques instants sans pouvoir proférer une parole. Puis, rompant tout à coup le silence, « L'ai-je bien entendu ?» me dit-il. « Quoi, vous avez la confiance du Premier ministre ?»«
Je la partage, » lui répondis-je, « avec Don Rodrigue de Calderon. Et selon toutes les apparences, j'irai loin. »«
En vérité, seigneur de Santillane, » répliqua-t-il, « je vous admire. » Vous êtes capable de remplir toutes sortes d'emplois. Que de talents vous réunissez en vous. Ou plutôt, pour me servir d'une expression de notre tripot, vous avez l'outil universel, c'est-à-dire vous êtes propre à tout.
Au reste, seigneur, poursuivit-il, je suis ravi de la prospérité de votre seigneurie.
Oh, que diable ! Interrompis-je. « Monsieur Nunez, trêve de seigneur et de seigneurie, bannissons ces termes-là et vivons toujours ensemble familièrement. »«
Tu as raison, » reprit-il, « je ne dois pas te regarder d'un autre œil qu'à l'ordinaire, quoique tu sois devenu riche. »«
Mais, » ajouta-t-il, « je t'avouerai ma faiblesse. En m'annonçant ton heureux sort, tu m'as ébloui. » Par bonheur, mon éblouissement se passe, et je ne vois plus en toi que mon ami Gil Blas. Notre entretien fut troublé par 4 ou 5 commis qui arrivèrent. «
Messieurs, leur dis-je en leur montrant Nunez, vous souperez avec le seigneur Don Fabricio, qui fait des vers dignes du roi Numa, et qui écrit en prose comme on écrit point. » Par malheur, je parlais à des gens qui faisaient si peu de cas de la poésie, que le poète en pâlit. À peine daignèrent-ils jeter sur lui les yeux. Il eut beau, pour s'attirer leur attention, dire des choses très spirituelles, ils ne les sentirent pas. Il en fut si piqué qu'il prit une licence poétique. Il s'échappa subtilement de la compagnie et disparut. Nos commis ne s'aperçurent pas de sa retraite et se mirent à table sans même s'informer de ce qu'il était devenu. Comme j'achevais de m'habiller le lendemain matin et me disposais à sortir, le poète des Asturies entra dans ma chambre. « Je te demande pardon, mon ami, me dit-il, si j'ai hier au soir rompu en visière à tes commis. Mais franchement, je me suis trouvé parmi eux si déplacé que je n'ai pu y tenir. Les fastidieux personnages avec leur air suffisant et empesé, je ne comprends pas comment toi, qui as l'esprit si délié, tu peux t'accommoder de convives si lourds. Je veux dès aujourd'hui t'en amener de plus léger. »
Tu me feras plaisir, lui répondis-je, et je m'en fie à ton goût là-dessus.
Tu as raison, répliqua-t-il. Je te promets des génies supérieurs et des plus amusants. Je vais de ce pas chez un marchand de liqueurs où ils vont s'assembler dans un moment. Je les retiendrai, de peur qu'ils ne s'engagent ailleurs, car c'est à qui les aura à dîner ou à souper, tant ils sont réjouissants. » À ces paroles, il me quitta. Et le soir, à l'heure du souper, il revint, accompagné seulement de 6 auteurs, qu'il me présenta l'un après l'autre en me faisant leur éloge. À l'entendre, ces beaux esprits surpassaient ceux de la Grèce et de l'Italie. « Et leurs ouvrages, disait-il, méritaient d'être imprimés en lettres d'or. » Je reçus ces messieurs très poliment. J'affectai même de les combler d'honnêteté. Car la nation des auteurs est un peu vaine et glorieuse.
Quoique je n'eusse pas recommandé à Scipion d'avoir soin que l'abondance régnât dans ce repas, comme il savait quelle sorte de gens je devais ce jour-là régaler, il avait fait renforcer les services. Enfin, nous nous mîmes à table fort gaiement. Mes poètes commencèrent à s'entretenir d'eux-mêmes et à se louer. Celui-ci, d'un air fier, citait les grands seigneurs et les femmes de qualité dont sa muse faisait les délices. Celui-là, blâmant le choix qu'une académie de gens de lettres venait de faire de deux sujets, disait modestement que c'était lui qu'elle aurait dû choisir. Il n'y avait pas moins de présomption dans les discours des autres. Au milieu du souper, les voilà qui m'assassinent de vers et de prose. Ils se mettent à réciter à la ronde chacun un morceau de ses écrits. L'un débite un sonnet, l'autre déclame une scène tragique, et un autre lit la critique d'une comédie. Un quatrième, voulant à son tour faire la lecture d'une ode d'Anacréon, traduite en mauvais vers espagnol, est interrompu par un de ses confrères qui lui dit qu'il s'est servi d'un terme impropre. L'auteur de la traduction n'en convient nullement. De là naît une dispute, dans laquelle tous les beaux esprits prennent parti. Les opinions sont partagées, les disputeurs s'échauffent. Ils en viennent aux invectives. Passe encore pour cela, mais ces furieux se lèvent de table et se battent à coups de poing. Fabrice, Scipion, mon cocher, mes laquais et moi, nous n'eûmes pas peu de peine à leur faire lâcher prise. Lorsqu'ils se virent séparés, ils sortirent de ma maison comme d'un cabaret, sans me faire la moindre excuse de leur impolitesse. Nunez, sur la parole de qui je m'étais fait de ce repas une idée agréable, demeura fort étourdi de cette aventure. « Eh bien, lui dis-je, notre ami, me vanterez-vous encore vos convives ? Par ma foi, vous m'avez amené là de vilaines gens. Je m'en tiens à mes commis, ne me parlez plus d'auteur. » « Je n'ai garde, me répondit-il, de t'en présenter d'autres. Tu viens de voir les plus raisonnables. » Chapitre 10. Les mœurs de Gil Blas se corrompent entièrement à la cour, de la commission dont le chargea le comte de Lemos et de l'intrigue dans laquelle ce seigneur et lui s'engagèrent. Lorsque je fus connu pour un homme chéri du duc de Lerme, j'eus bientôt une cour. Tous les matins, mon antichambre se trouvait pleine de monde, et je donnais mes audiences à mon lever. Il venait chez moi deux sortes de gens, les uns pour m'engager, en payant à demander des grâces au ministre, et les autres pour m'exciter par des supplications à leur faire obtenir gratis ce qu'ils souhaitaient. Les premiers étaient sûrs d'être écoutés et bien suivis. À l'égard des seconds, je m'en débarrassais sur le champ par des défaites, ou bien je les amusais si longtemps que je leur faisais perdre patience. Avant que je fusse à la cour, j'étais compatissant et charitable de mon naturel. Mais on n'a plus là de faiblesse humaine, et j'y devins plus dur qu'un caillou. Je me guéris aussi, par conséquent, de ma sensibilité pour mes amis. Je me dépouillais de toute affection pour eux. La manière dont j'en usais avec Joseph Navarro dans une conjoncture que je vais rapporter en peut faire foi. Ce Navarro, à qui j'avais tant d'obligations et qui, pour tout dire en un mot, était la cause première de ma fortune, vint un jour chez moi. Après m'avoir témoigné beaucoup d'amitié, ce qu'il avait coutume de faire quand il me voyait, il me pria de demander pour un de ses amis certains emplois au duc de Lerme, en me disant que le cavalier pour lequel il me sollicitait était un garçon fort aimable et d'un grand mérite, mais qu'il avait besoin d'un poste pour subsister. « Je ne doute pas, ajouta Joseph, bon et obligeant comme je vous connais, que vous ne soyez ravi de faire plaisir à un honnête homme qui n'est pas riche. Son indigence est un titre pour mériter votre appui. Je suis sûr que vous me savez bon gré de vous donner une occasion d'exercer votre humeur bienfaisante. » C'était me dire nettement qu'on attendait de moi ce service pour rien. Quoique cela ne fût guère de mon goût, je ne laissais pas de paraître fort disposé à faire ce qu'on désirait. « Je suis charmé, répondis-je à Navarro, de pouvoir vous marquer la vive reconnaissance que j'ai de tout ce que vous avez fait pour moi. Il suffit que vous vous intéressiez pour quelqu'un.
Il n'en faut pas davantage pour me déterminer à le servir. Votre ami aura cet emploi que vous souhaitez qu'il ait. Comptez là-dessus. Ce n'est plus votre affaire, c'est la mienne. » Sur cette assurance, Joseph s'en alla très satisfait de moi. Néanmoins, la personne qu'il m'avait recommandée n'eut pas le poste en question. Je le fis accorder à un autre homme pour 1000 ducats que je mis dans mon coffre-fort. Je préférais cette somme aux remerciements que m'aurait fait mon chef d'office, à qui je dis d'un air mortifié quand nous nous revîmes « Ah, mon cher Navarro, vous vous êtes avisé trop tard de me parler. Calderon m'a prévenu, il a fait donner l'emploi que vous savez. Je suis au désespoir de n'avoir pas une meilleure nouvelle à vous apprendre. » Joseph me crut de bonne foi, et nous nous quittâmes plus amis que jamais. Mais je crois qu'il découvrit bientôt la vérité, car il ne revint plus chez moi. Au lieu de sentir quelques remords d'en avoir usé de la sorte avec un ami véritable et à qui j'avais tant d'obligations, j'en fus charmé. Outre que les services qu'il m'avait rendus me pesaient, il me semblait que, dans la passe où j'étais alors à la cour, il ne me convenait plus de fréquenter des maîtres d'hôtel. Il y a longtemps que je n'ai parlé du comte de Lemos. Venons présentement à ce seigneur. Je le voyais quelquefois, je lui avais porté 1000 pistoles, comme je l'ai dit ci-devant, et je lui en portais 1000 autres encore, par ordre du duc son oncle, de l'argent que j'avais à son excellence. Le comte de Lemos, ce jour-là, voulut avoir un long entretien avec moi. Il m'apprit qu'il était enfin parvenu à son but et qu'il possédait entièrement les bonnes grâces du prince d'Espagne, dont il était l'unique confident. Ensuite, il me chargea d'une commission fort honorable et à laquelle il m'avait déjà préparé. « Ami Santillane, me dit-il, c'est maintenant qu'il faut agir. N'épargnez rien pour découvrir quelque jeune beauté qui soit digne d'amuser ce prince galant. Vous avez de l'esprit, je ne vous en dis pas davantage. Allez, courez, cherchez, et quand vous aurez fait une heureuse découverte, vous viendrez m'en avertir. » Je promis au comte de ne rien négliger pour bien m'acquitter de cet emploi, qui ne doit pas être fort difficile à exercer, puisqu'il y a tant de gens qui s'en mêlent. Je n'avais pas un grand usage de ces sortes de recherches, mais je ne doutais point que Scipion ne fût encore admirable pour cela. En arrivant au logis, je l'appelai et lui dis en particulier « Mon enfant, j'ai une confidence importante à te faire. Sais-tu bien qu'au milieu des faveurs de la fortune, je sens qu'il me manque quelque chose ?»« Je devine aisément ce que c'est, » interrompit-il, sans me donner le temps d'achever ce que je voulais lui dire. « Vous avez besoin d'une nymphe agréable pour vous dissiper un peu et vous égayer. Et en effet, il est étonnant que vous n'en ayez pas dans le printemps de vos jours, pendant que de graves barbons ne sauraient s'en passer. » « J'admire ta pénétration, » repris-je en souriant. « Oui, mon ami, c'est une maîtresse qu'il me faut et je veux l'avoir de ta main. Mais je t'avertis que je suis très délicat sur la matière. » « Je te demande une jolie personne qui n'ait pas de mauvaise mœurs. » « Ce que vous souhaitez, » repartit Scipion en souriant, « est un peu rare. Cependant, nous sommes, Dieu merci, dans une ville où il y a de tout, et j'espère que j'aurai bientôt trouvé votre fait. » Véritablement, 3 jours après, il me dit « J'ai découvert un trésor, une jeune dame nommée Catalina, de bonne famille et d'une beauté ravissante, demeure sous la conduite de sa tante dans une petite maison où elles vivent toutes deux fort honnêtement de leur bien qui n'est pas considérable. Elles sont servies par une soubrette que je connais et qui vient de m'assurer que leur porte, quoique fermée à tout le monde, pourrait s'ouvrir à un galant riche et libéral, pourvu qu'il voulût bien, de peur du scandale, n'entrer chez elle que la nuit et sans faire aucun éclat. Là-dessus, je vous ai peint comme un cavalier qui méritait de trouver l'huis ouvert, et j'ai prié la soubrette de vous proposer aux deux dames. Elle m'a promis de le faire et de me rapporter demain matin la réponse dans un endroit dont nous sommes convenus. « Cela est bon, » lui répondis-je, « mais je crains que la femme de chambre à qui tu viens de parler ne t'en ait fait à croire. » Non, non, répliqua-t-il, ce n'est point à moi qu'on en donne à garder. J'ai déjà interrogé les voisins, et je conclus de tout ce qu'ils m'ont dit que la signora Catalina est telle que vous la pouvez désirer, c'est-à-dire une Danae chez laquelle il vous sera permis d'aller faire le Jupiter à la faveur d'une grêle de pistoles que vous y laisserez tomber. Tout prévenu que j'étais contre ces sortes de bonnes fortunes, je me prêtai à celle-là. Et comme la femme de chambre vint dire le jour suivant à Scipion qu'il ne tiendrait qu'à moi d'être introduit dès ce soir-là même dans la maison de ses maîtresses, je m'y glissai entre 11 heures et minuit. La soubrette me reçut sans lumière et me prit par la main pour me conduire dans une salle assez propre où je trouvai les deux dames galamment habillées et assises sur des carreaux de satin. Aussitôt qu'elles m'aperçurent, elles se levèrent et me saluèrent d'une manière toute gracieuse. Je crus voir deux personnes de qualité. La tante, qu'on appelait la signora Mancia, quoique belle encore, ne s'attira pas mon attention. Il est vrai qu'on ne pouvait regarder que la nièce, qui me parut une déesse. À l'examiner pourtant, à la rigueur, on aurait pu dire que ce n'était pas une beauté parfaite. Mais elle avait des grâces, avec un air piquant et voluptueux, qui ne permettait guère aux yeux des hommes de remarquer ses défauts. Aussi, sa vue troubla mes sens. J'oubliais que je ne venais là que pour faire l'office du procureur. Je parlais en mon nom propre et privé, et tins tous les discours d'un homme passionné. La petite fille, à qui je trouvais 3 fois plus d'esprit qu'elle n'en avait, tant elle me paraissait aimable, acheva de m'enchanter par ses réponses. Je commençais à ne plus me posséder, lorsque la tante, pour modérer mes transports, prit la parole et me dit « Seigneur de Santillane, je vais m'expliquer franchement avec vous. Sur l'éloge qu'on m'a fait de votre seigneurie, je vous ai permis d'entrer chez moi, sans affecter, par des façons, de vous faire valoir cette faveur. Mais ne pensez pas pour cela que vous en soyez plus avancé. J'ai jusqu'ici élevé ma nièce dans la retraite, et vous êtes, pour ainsi dire, le premier cavalier au regard de qui je l'expose. Si vous la jugez digne d'être votre épouse, je serai ravi qu'elle ait cet honneur. Voyez si elle vous convient à ce prix-là. Vous ne l'aurez point à meilleur marché. » Ce coup tiré à bout portant effaroucha l'amour qui m'allait décocher une flèche. Pour parler sans métaphore, un mariage proposé si crûment me fit rentrer en moi-même. Je redevins tout à coup l'agent fidèle du comte de Lemos, et changeant de ton, je répondis à la signora Mancia. « Madame, votre franchise me plaît et je veux l'imiter. Quelque figure que je fasse à la cour, je ne vaux pas l'incomparable Catalina. J'ai pour elle en main un parti plus brillant. Je lui destine le prince d'Espagne. » Il suffisait de refuser ma nièce, reprit la tante froidement. Ce refus, ce me semble, était assez désobligeant. Il n'était pas nécessaire de l'accompagner d'un trait railleur. Je ne raille point, madame, m'écriai-je. Rien n'est plus sérieux. J'ai ordre de chercher une personne qui mérite d'être honorée des visites secrètes du prince d'Espagne. Je la trouve dans votre maison, je vous marque à la craie. La signora Mancia fut fort étonnée d'apprendre ces paroles, et je m'aperçus qu'elles ne lui déplurent point. Néanmoins, croyant devoir faire la réservée, elle me répliqua de cette manière. « Quand je prendrai au pied de la lettre ce que vous me dites, apprenez que je ne suis pas d'un caractère à m'applaudir de l'infâme honneur de voir ma nièce maîtresse du prince. Ma vertu se révolte contre l'idée... »
« Que vous êtes bonne, interrompis-je, avec votre vertu. Vous pensez comme une sotte bourgeoise. Vous moquez-vous de considérer ces choses-là dans un point de vue moral? C'est leur ôter tout ce qu'elles ont de beau. Il faut les regarder d'un œil charmé. Envisagez l'héritier de la monarchie au pied de l'heureuse Catalina. Représentez-vous qu'il l'adore et la comble de présents. Et songez enfin qu'il naîtra d'elle peut-être un héros qui rendra le nom de sa mère immortel avec le sien. » Quoique la tante ne demandât pas mieux que d'accepter ce que je proposais, elle feignit de ne savoir à quoi se résoudre. Et Catalina, qui aurait déjà voulu tenir le prince d'Espagne, affecta une grande indifférence.
ce qui fut cause que je me tins sur nouveau frais à presser la place, jusqu'à ce qu'enfin la signora Mancia, me voyant rebuté et prêt à lever le siège, battit la chamade, et nous dressâmes une capitulation qui contenait les deux articles suivants. Primo, que si le prince d'Espagne, sur le rapport qu'on lui ferait des agréments de Catalina, prenait feu et se déterminait à lui faire une visite nocturne, j'aurais soin d'en informer les dames, comme aussi de la nuit qui serait choisie pour cet effet. Secondo, que le prince ne pourrait s'introduire chez les dites dames qu'en galant ordinaire et accompagné seulement de moi et de son mercure en chef. Après cette convention, la tante et la nièce me firent toutes les amitiés du monde. Elles prirent avec moi un air de familiarité, à la faveur duquel je hasardai quelques accolades qui ne furent pas trop mal reçues. Et lorsque nous nous séparâmes, elles m'embrassèrent d'elles-mêmes en me faisant toutes les caresses imaginables. C'est une chose merveilleuse que la facilité avec laquelle il se forme une liaison entre les courtiers de galanterie et les femmes qui ont besoin d'eux. On aurait dit, en me voyant sortir de là si favorisé, que j'eusse été plus heureux que je ne l'étais. Le comte de Lemos sentit une extrême joie quand je lui annonçai que j'avais fait une découverte telle qu'il la pouvait souhaiter. Je lui parlai de Catalina dans des termes qui lui donnèrent envie de la voir. Je le menai chez elle la nuit suivante et il m'avoua que j'avais fort bien rencontré. Il dit aux dames qu'il ne doutait nullement que le prince d'Espagne ne fût fort satisfait de la maîtresse que je lui avais choisie, et qu'elle, de son côté, aurait sujet d'être contente d'un tel amant, que ce jeune prince était généreux, plein de douceur et de bonté. Enfin, il les assura que dans quelques jours, il le leur amènerait de la façon qu'elle le désirait, c'est-à-dire sans suite et sans bruit. Ce seigneur prit là-dessus congé d'elle, et je me retirai avec lui. Nous rejoignâmes son équipage, dans lequel nous étions venus tous deux et qui nous attendait au bout de la rue. Ensuite, il me conduisit à mon hôtel en me chargeant d'instruire le lendemain son oncle de cette aventure ébauchée et de le prier de sa part de lui envoyer un millier de pistoles pour la mettre à fin. Je ne manquai pas le jour suivant d'aller rendre au duc de Lerme un compte exact de tout ce qui s'était passé. Je ne lui cachai qu'une chose, je ne lui parlai point de Scipion. Je me donnai pour auteur de la découverte de Catalina, car on se fait honneur de tout auprès des grands. Je m'attirai par là des compliments à mi-sucre. « Monsieur Gil Blas, me dit le ministre d'un air railleur, je suis ravi qu'avec tous vos autres talents que vous ayez encore celui de déterrer les beautés obligeantes. Quand j'en voudrai quelques-unes, vous trouverez bon que je m'adresse à vous. » « Monseigneur, lui répondis-je sur le même ton, je vous remercie de la préférence, mais vous me permettrez de vous dire que je me ferais un scrupule de procurer ces sortes de plaisirs à votre excellence. Il y a si longtemps que le seigneur Don Rodrigue est en possession de cet emploi-là qu'il y aurait injustice à l'en dépouiller. » Le duc sourit de ma réponse. Puis, changeant de discours, il me demanda si son neveu n'avait pas besoin d'argent pour s'être équipé. « Pardonnez-moi, lui dis-je, il vous prie de lui envoyer 1000 pistoles. »« Eh bien, reprit le ministre, tu n'as qu'à les lui porter. Dis-lui qu'il ne les ménage point et qu'il applaudisse à toutes les dépenses que le prince souhaitera de faire. » Chapitre 11. De la visite secrète et des présents que le prince d'Espagne fit à Catalina. J'allais porter à l'heure même 500 roubles pistoles au comte de Lemos. « Vous ne pouviez venir plus à propos, me dit ce seigneur. J'ai parlé au prince, il a mordu à la grappe, il brûle d'impatience de voir Catalina. Dès la nuit prochaine, il veut se dérober secrètement de son palais pour se rendre chez elle. C'est une chose résolue. Nos mesures sont déjà prises pour cela. Avertissez-en les dames et leur donnez l'argent que vous m'apportez. Il est bon de leur faire connaître que ce n'est point un amant ordinaire qu'elles ont à recevoir. D'ailleurs, les bienfaits des princes doivent devancer leur galanterie. Comme vous l'accompagnerez avec moi, poursuivit-il, ayez soin de vous trouver ce soir à son coucher. Il faudra de plus que votre carrosse, car je juge à propos de nous en servir, nous attende à minuit aux environs du palais. » Je me rendis aussitôt chez les dames. Je ne vis point Catalina. On me dit qu'elle reposait. Je ne parlais qu'à la signora Mancia. « Madame, lui dis-je, excusez-moi de grâce si je parais dans votre maison pendant le jour, mais je ne puis faire autrement. Il faut bien que je vous avertisse que le prince d'Espagne viendra chez vous cette nuit. Et voici, ajoutai-je en lui mettant entre les mains un sac où étaient les espèces. Voici une offrande qu'il envoie au temple de Cythère pour s'en rendre les divinités favorables. Je ne vous ai pas, comme vous voyez, engagé dans une mauvaise affaire. « Je vous en suis redevable, répondit-elle. Mais apprenez-moi, seigneur de Santillane, si le prince aime la musique. » « Il l'aime, repris-je, à la folie. Rien ne le divertit tant qu'une belle voix accompagnée d'un luth touché délicatement. « Tant mieux, s'écria-t-elle toute transportée de joie. Vous me charmez en me disant cela, car ma nièce a un gosier de rossignol et joue du luth à ravir. Elle danse même parfaitement. Vive Dieu ! M'écriai-je à mon tour. Voilà bien des perfections, ma tante. Il n'en faut pas tant à une fille pour faire fortune. Un seul de ses talents lui suffit pour cela. Ayant ainsi préparé les voix, j'attendis l'heure du coucher du prince. Lorsqu'elle fut arrivée, je donnai mes ordres à mon cocher et rejoignis le comte de Lemos, qui me dit que le prince, pour se défaire plutôt de tout le monde, allait feindre une légère indisposition et se mettre au lit pour mieux persuader qu'il était malade, mais qu'il se relèverait une heure après et gagnerait par une porte secrète un escalier dérobé qui conduisait dans les cours. Lorsqu'il m'eut instruit de ce qu'ils avaient concerté tous deux, il me posta dans un endroit où il m'assura qu'il passerait. J'y gardais si longtemps le mulet que je commençais à croire que notre galant avait pris par un autre chemin ou perdu l'envie de voir Catalina. Comme si les princes perdaient ces sortes de fantaisies avant de les avoir satisfaites. Enfin, je m'imaginais qu'on m'avait oublié, quand il parut deux hommes qui m'abordèrent. Les ayant reconnus pour ce que j'attendais, je les menai à mon carrosse, dans lequel ils montèrent l'un et l'autre. Pour moi, je me mis auprès du cocher pour lui servir de guide, et je le fis arrêter à 50 pas de chez les dames. Je donnai la main au prince et à son compagnon pour les aider à descendre, et nous marchâmes vers la maison où nous voulions nous introduire. La porte s'ouvrit à notre approche et se referma dès que nous fûmes entrés. Nous nous trouvâmes d'abord dans les mêmes ténèbres où je m'étais trouvé la première fois, quoiqu'on eût pourtant par distinction attaché une petite lampe à un mur. La lumière qu'elle répandait était si sombre que nous l'apercevions seulement sans être éclairés. Tout cela ne servait qu'à rendre l'aventure plus agréable à son héros, qui fut vivement frappé de la vue des dames lorsqu'elles le reçurent dans la salle, où la clarté d'un grand nombre de bougies compensait l'obscurité qui régnait dans la cour. La tante et la nièce étaient dans un déshabillé galant où il y avait une intelligence de coquetterie qui ne les laissait pas regarder impunément. Notre prince serait fort bien contenté de la signora Mancia s'il n'eût pas eu à choisir, mais les charmes de la jeune Catalina, comme de raison, eurent la préférence. « Eh bien, mon prince, lui dit le comte de Lemos, pouvions-nous vous procurer le plaisir de voir deux personnes plus jolies ?»« Je les trouve toutes deux ravissantes, répondit le prince, et je n'ai garde de remporter d'ici mon cœur, puisqu'il n'échapperait point à la tante si la nièce le pouvait manquer. » Après un compliment si gracieux pour une tante, il dit mille choses flatteuses à Catalina, qui lui répondit très spirituellement. Comme il est permis aux honnêtes gens qui font le personnage que je faisais dans cette occasion de se mêler à l'entretien des amants, pourvu que ce soit pour attiser le feu, je dis au galant que sa nymphe chantait et jouait du luth à merveille. Il fut ravi d'apprendre qu'elle eut ses talents. Il la pressa de lui en montrer un échantillon. Elle se rendit de bonne grâce à ses instances, prit un luth tout accordé, joua quelques airs tendres et chanta d'une manière si touchante
que le prince se laissa tomber à ses genoux, tout transporté d'amour et de plaisir. Mais finissons là ce tableau, et disons seulement que dans la douce ivresse où l'héritier de la monarchie espagnole était plongé, les heures s'écoulèrent comme des moments, et qu'il nous fallut l'arracher de cette dangereuse maison à cause du jour qui s'approchait. Messieurs les entrepreneurs le ramenèrent promptement au palais et le remirent dans son appartement. Ils se retirèrent ensuite chez eux, aussi contents de l'avoir appareillé avec une aventurière que s'ils eussent fait son mariage avec une princesse. Je contai le lendemain matin cette aventure au duc de Lerme, car il voulait tout savoir. Dans le temps que je lui en achevais le récit, le comte de Lemos arriva et nous dit « Le prince d'Espagne est si occupé de Catalina, il a pris tant de goût pour elle qu'il se propose de la voir souvent et de s'y attacher. Il voudrait lui envoyer aujourd'hui pour 2000 pistoles de pierreries, mais il n'a pas le sou, il s'est adressé à moi. « Mon cher Lemos, m'a-t-il dit, il faut que vous me trouviez tout à l'heure cette somme-là. Je sais bien que je vous incommode, que je vous épuise. Aussi mon cœur vous en tient-il un grand compte. Et si jamais je me vois en état de reconnaître, d'une autre manière que par le sentiment, tout ce que vous avez fait pour moi, vous ne vous repentirez point de m'avoir obligé. » Mon prince, lui ai-je répondu en le quittant sur le champ, j'ai des amis et du crédit, je vais vous chercher ce que vous souhaitez. Il n'est pas difficile de le satisfaire, dit alors le duc à son neveu. Santillane va vous porter cet argent, ou bien, si vous voulez, il achètera lui-même les pierreries, car il s'y connaît parfaitement, et surtout en rubis. N'est-il pas vrai, Gil Blas ? Ajouta-t-il en me regardant d'un air malin. « Que vous êtes malicieux, monseigneur, lui répondis-je. Je vois bien que vous avez envie de faire rire monsieur le comte à mes dépens. » Cela ne manqua pas d'arriver. Le neveu demanda quel mystère il y avait là-dessous. « Ce n'est rien, répliqua l'oncle en riant. C'est qu'un jour, Santillane s'avisa de troquer un diamant contre un rubis et que ce troc ne tourna ni à son honneur ni à son profit. » J'aurais été trop heureux si le ministre n'en eût pas dit davantage, mais il prit la peine de compter le tour que Camille et Don Raphaël m'avaient joué dans un hôtel garni et de s'étendre particulièrement sur les circonstances les plus désagréables pour moi. Son Excellence, après s'être bien égayé, m'ordonna d'accompagner le comte de Lemos, qui me mena chez un joaillier où nous choisîmes des pierreries que nous allâmes montrer au prince d'Espagne. Après quoi, elles me furent confiées pour être remises à Catalina. J'allai ensuite prendre chez moi 2000 pistoles de l'argent du duc pour payer le marchand. On ne doit pas demander si la nuit suivante je fus gracieusement reçu des dames lorsque j'exhibai les présents de mon ambassade, lesquels consistaient en une belle paire de boucles d'oreilles avec les pendants pour la nièce. Charmées l'une et l'autre de ces marques de l'amour et de la générosité du prince, elles se mirent à jaser comme de commères et à me remercier de leur avoir procuré une si bonne connaissance. Elles s'oublièrent dans l'excès de leur joie. Il leur échappa quelques paroles qui me firent soupçonner que je n'avais produit qu'une friponne au fils de notre grand monarque. Pour savoir précisément si j'avais fait ce beau chef-d'œuvre, je me retirai dans le dessein d'avoir un éclaircissement avec Scipion. Chapitre 13. Gil Blas continue à faire le seigneur. Il apprend des nouvelles de sa famille. Quelle impression elles font sur lui? Il se brouille avec Fabrice. J'ai déjà dit que le matin, il y avait ordinairement dans mon antichambre une foule de personnes qui venaient me faire des propositions. Mais je ne voulais pas qu'on me les fît de vive voix. Et suivant l'usage de la cour, ou plutôt pour faire l'important, je disais à chaque solliciteur « Donnez-moi un mémoire ». Je m'étais si bien accoutumé à cela qu'un jour je répondis ces paroles au propriétaire de mon hôtel qui vint me faire souvenir que je lui devais une année de loyer. Pour mon boucher et mon boulanger, il m'épargnait la peine de leur demander des mémoires, tant ils étaient exacts à m'en apporter tous les mois. Scipion, qui me copiait si bien qu'on pouvait dire que la copie approchait fort de l'original, n'en usait pas autrement avec les personnes qui s'adressaient à lui pour le prier de m'engager à les servir.
J'avais encore un autre ridicule dont je ne prétends point me faire grâce. J'étais assez fat pour parler des plus grands seigneurs comme si j'eusse été un homme de leur étoffe. Si j'avais, par exemple, à citer le duc d'Albe, le duc d'Ossone ou le duc de Médina Sidonia, je disais sans façon d'Albe, d'Ossone et Médina Sidonia. En un mot, j'étais devenu si fier et si vain que je n'étais plus le fils de mon père et de ma mère. Hélas, pauvre duègne et pauvre écuyer, je ne m'informais pas si vous viviez heureux ou misérable dans les Asturies. C'est à quoi je ne pensais point du tout. Je ne songeais pas seulement à vous. La cour a la vertu du fleuve l'été pour nous faire oublier nos parents et nos amis quand ils sont dans une mauvaise situation. Je ne me souvenais donc plus de ma famille lorsqu'un matin il entra chez moi un jeune homme qui me dit qu'il souhaitait de me parler un moment en particulier. Je le fis passer dans mon cabinet où, sans lui offrir une chaise, parce qu'il me paraissait un homme commun, je lui demandai ce qu'il me voulait. « Seigneur Gil Blas, me dit-il. « Quoi, vous ne me remettez point ?» J'eus beau le considérer attentivement, je fus obligé de lui répondre que ses traits m'étaient tout à fait inconnus. « Je suis, reprit-il, un de vos compatriotes, natif d'Oviedo même, et fils de Bertrand Muscada, l'épicier voisin de votre oncle le chanoine. Je vous reconnais bien, moi. Nous avons joué 1000 fois tous deux à la Gallina Ciega. Je n'ai, lui répondis-je, qu'une idée très confuse des amusements de mon enfance. Les soins dont j'ai depuis été occupé m'en ont fait perdre la mémoire. Je suis venu, dit-il, à Madrid pour compter avec le correspondant de mon père. J'ai entendu parler de vous. On m'a dit que vous étiez sur un bon pied à la cour et déjà riche comme un juif. Je vous en fais mes compliments et je vais, à mon retour au pays, combler de joie votre famille en lui annonçant une si agréable nouvelle. » Je ne pouvais honnêtement me dispenser de lui demander dans quelle situation il avait laissé mon père, ma mère et mon oncle. Mais je m'acquittais si froidement de ce devoir que je ne donnais pas sujet à mon épicier d'admirer la force du sang. Et il me le fit bien connaître. Il parut choqué de l'indifférence que j'avais pour des personnes qui me devaient être si chères. Et comme c'était un garçon franc et grossier, « Je vous croyais, » me dit-il crûment, « plus de tendresse et de sensibilité pour vos proches. De quel air glacé m'interrogez-vous sur leur compte? Il semble que vous les ayez mis en oubli. Savez-vous quelle est leur situation ? Apprenez que votre père et votre mère sont toujours dans le service et que le bon chanoine Gilles Pérez, accablé de vieillesse et d'infirmité, n'est pas loin de sa fin. « Il faut avoir du naturel, » poursuivit-il, « et puisque vous êtes en état de faire du bien à vos parents, je vous conseille en ami de leur envoyer 200 pistoles tous les ans. Par ce secours, vous leur procurerez une vie douce et heureuse, sans vous incommoder. » Au lieu d'être touché de la peinture qu'il me faisait de ma famille, je ne sentis que la liberté qu'il prenait de me conseiller sans que je l'en priasse. Avec plus d'adresse, peut-être, m'aurait-il persuadé, mais il ne fit que me révolter par sa franchise. Il s'en aperçut bien au silence mécontent que je gardais, et continuant son exhortation avec moins de charité que de malice, il m'impatienta. « Oh, c'en est trop !» répondis-je avec emportement. « Allez, monsieur de Muscada, ne vous mêlez que de ce qui vous regarde. Allez trouver le correspondant de votre père et comptez avec lui. Il vous convient bien de me dicter mon devoir. Je sais mieux que vous ce que j'ai à faire dans cette occasion. » En achevant ces mots, je poussai l'épicier hors de mon cabinet et le renvoyai à Oviedo vendre du poivre et du girofle. Ce qu'il venait de me dire ne laissa pas de s'offrir à mon esprit, et me reprochant moi-même que j'étais un fils dénaturé, je m'attendris. Je rappelai les soins qu'on avait eus de mon enfance et de mon éducation, je me représentai ce que je devais à mes parents, et mes réflexions furent accompagnées de quelques transports de reconnaissance, qui pourtant n'aboutirent à rien. Mon ingratitude les étouffa bientôt, et leur fit succéder un profond oubli. Il y a bien des pères qui ont de pareils enfants. » L'avarice et l'ambition qui me possédaient changèrent entièrement mon humeur. Je perdis toute ma gaieté. Je devins distrait et rêveur, en un mot, un sot animal. Fabrice, me voyant tout occupé du soin de sacrifier à la fortune et fort détaché de lui, ne venait plus chez moi que rarement. Il ne put même s'empêcher de me dire un jour « En vérité, Gil Blas, je ne te reconnais plus. Avant que tu fusses à la cour, tu avais toujours l'esprit tranquille. À présent, je te vois sans cesse agité. Tu formes projet sur projet pour t'enrichir, et plus tu amasses de biens, plus tu veux en amasser. Outre cela, te le dirai-je, tu n'as plus avec moi ces épanchements de cœur, ces manières libres qui font le charme des liaisons. Tout au contraire, tu t'enveloppes et me caches le fond de ton âme. Je remarque même de la contrainte dans les honnêtetés que tu me fais. Enfin, Gil Blas n'est plus ce même Gil Blas que j'ai connu. » « Tu plaisantes sans doute, » lui répondis-je d'un air assez froid. « Je n'aperçois en moi aucun changement. » « Ce n'est point à tes yeux, » répliqua-t-il, « qu'on doit s'en rapporter. Ils sont fascinés. Crois-moi, ta métamorphose n'est que trop véritable. » « En bonne foi, mon ami, parle. Vivons-nous ensemble comme autrefois ? Quand j'allais le matin frapper à ta porte, tu venais m'ouvrir toi-même, encore tout endormi le plus souvent, et j'entrais dans ta chambre sans façon. Aujourd'hui, quelle différence ! Tu as des laquais, on me fait attendre dans ton antichambre, et il faut qu'on m'annonce avant que je puisse te parler. Après cela, comment me reçois-tu ? Avec une politesse glacée et en tranchant du Seigneur. On dirait que mes visites commencent à te peser. Crois-tu qu'une pareille réception soit agréable à un homme qui t'a vu son camarade ? Non, Santillane, non, elle ne me convient nullement. Adieu, séparons-nous à l'amiable. Défaisons-nous tous deux, toi d'un censeur de tes actions et moi d'un nouveau riche qui se méconnaît. Je me sentis plus aigri que touché de ses reproches, et je le laissai s'éloigner sans faire le moindre effort pour le retenir. Dans la situation où était mon esprit, l'amitié d'un poète ne me paraissait pas une chose assez précieuse pour devoir m'affliger de sa perte. Je trouvai de quoi m'en consoler dans le commerce de quelques petits officiers du roi, auxquels un rapport d'humeur me liait depuis peu étroitement. Ces nouvelles connaissances étaient des hommes dont la plupart venaient de je ne sais où et que leur heureuse étoile avait fait parvenir à leur poste. Ils étaient déjà tous à leur aise, et ces misérables, n'attribuant qu'à leur mérite les bienfaits dont la bonté du roi les avait comblés, s'oubliaient de même que moi. Nous nous imaginions être des personnes bien respectables. Oh, fortune ! Voilà comme tu dispenses tes faveurs le plus souvent. Le stoïcien Épictète n'a pas tort de te comparer à une fille de condition qui s'abandonne à des valets.